Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
En Alsace, le camp de Nagyszeweder-Strutov.
Nous voudrions que vous saisissiez tout le caractère lugubre de ce camp de torture. Isolé de tout, coupé de tout, au sommet de ce col enneigé. Nous pénétrons maintenant dans l'enceinte du camp que nous allons visiter en essayant de vous en dépeindre aussi sobrement que possible l'austère et l'atroce tableau.
C'était avant-guerre une petite station de sport d'hiver à l'usage des Strasbourgeois. Après l'annexion de l'Alsace, l'hôtel est réquisitionné et des blocs sont installés sur la pente de ski aménagée en terrasse. De tous les camps du Reich, c'est le plus occidental. Évacué dès septembre 1944, il est libéré en novembre. Pourtant, en janvier 1945, il y a 70 ans, il fonctionne toujours. C'est que le camp souche a dissimulé tout un système fait de dizaines de commandos de travail qui poursuivent leur travail en réseau rive droite du Rhin. L'économie de guerre totale des nazis continue d'être nourrie par une immense remue d'hommes, des hommes qui ne sont plus chacun qu'un rouage, un morceau, ein Stück. C'est seulement à partir de février 1945 que le système se désorganise. En France reconstituée, le camp souche du Strutov a été depuis longtemps reconverti en lieu de détention pour les personnes soupçonnées de collaboration, tandis qu'en Allemagne, les détenus du système survivant de Nagyszeweder sont conduits dans le désordre grandissant des marches de la mort vers le sud. Dachau, qui est en lien étroit avec Nagyszeweder, continuera à tenir ses fichiers presque jusqu'au bout.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Robert Stegmann, bonjour.
Bonjour.
Qui a travaillé depuis des lustres sur ce camp, le camp souche, les commandos, on reviendra sur la différence. Ça aboutit à une thèse, à des publications, tour à tour à la Nuée Bleue à Strasbourg et à Paris aux éditions du Seuil. En proportion des livres sur le nazisme, les livres sur les camps de concentration sont relativement peu nombreux, alors que contrairement à ce qui a été dit souvent, les nazis ont laissé une documentation suffisante.
Oui, effectivement, si on reprend la thématique de la proportion, il est vrai que le nazisme, bon, dans sa globalité, a amené à beaucoup plus de publications, et que si on fait en France, parce qu'il y a l'œil français, puis il y a ce qui se passe ailleurs, et en Allemagne, il y a quand même pas mal de publications sur les camps. En France, il n'y a que deux véritables publications. Donc, la première a été celle de Michel Fabriquet sur Mauthausen, et la deuxième sur le Strutov. Voilà, depuis lors, plus rien.
Quant à l'œil alsacien, il n'est pas facile à exercer. L'Alsace est annexée. De fait,
oui, absolument. C'est une annexion de fait qui a suscité très peu de réclamations. On peut le dire de fait parce que les réclamations ont été très faibles ou très peu audibles, en tout cas, si elles ont été prononcées d'ailleurs, de la part de Vichy. Bon, et là-dessus, il n'y a pas eu d'opposition.
Un Gauleiter, le même, rive gauche et rive droite.
Oui, c'est-à-dire qu'on est en Allemagne. On est en Allemagne, germanisation à outrance et nazification sur un temps court. Parce que la nazification est en cours depuis 1933 en Allemagne. C'est une nazification accélérée.
Un lieu de rééducation pour les Alsaciens récalcitrants à Schirmeck, dans la vallée de la Bruche. C'est par la même gare de Schirmeck et aussi celle de Rottau qu'arrivent les premiers détenus en 1941, et ce sont des détenus de toutes catégories.
Oui, principalement des détenus du droit commun et des politiques, parce que le camp se constitue à partir de rien. C'est au premier détenu de construire ce camp qui a été, dont le site a été déterminé par la découverte d'une mine d'une carrière de granit rose à proximité. Ça rentrait dans les grands projets hitlériens de construction, bon, à ce moment-là, ou de reconstruction de sa Germania, hein, de cette capitale du Reich millénaire. Donc c'est la carrière qui a déterminé le site du camp, tout comme d'autres camps ont été également déterminés par des carrières. Bon, je pense à Mauthausen par exemple, ou à Flossenbürg. Bon, c'est la même chose. Et les détenus arrivent donc à partir de du 21 mai 1941. Ils sont 150. Ils sont 150 également qui se rajoutent le 23. Donc c'est ces 300 premiers qui commencent à construire effectivement le lieu même de leur détention.
La ferme et l'hôtel, la villa du commandant entre l'hôtel et l'ancienne piste de ski sur laquelle sont aménagés des gradins, une allée, des escaliers, des blocs. Et les premiers commandos de travail sont souvent dévolus à l'aménagement du lieu, encore que celui-ci recèle certains mystères. Roger Linet, qui a beaucoup témoigné sur le camp souche du Struthof, qui était un militant communiste et qui appartient à un des commandos les plus durs sur place.
Personnellement, je faisais partie du fameux commando Kartoffelkeller. Ça s'appelait la cave aux pommes de terre, on se demande pourquoi. Il s'agissait en fait, dans le flanc de la montagne, de creuser une sorte de grande cave. Alors, pendant 12 heures, nous devions piocher, pelleter, arracher de la montagne des rochers énormes, rouler des wagonnets qui étaient remplis de terre et de pierres. Et naturellement, tout cela, il fallait le faire à un rythme accéléré et sans arrêt. Par exemple, pour pousser les wagonnets, nous devions constamment courir. Nous étions constamment frappés également, à la fois par l'ESS qui était chargé de s'occuper de nous, c'était la sinistre brute Hermann Trott, et puis aussi les capots qui étaient formés à son école. Il y avait aussi naturellement pas de sécurité. Alors, comme il y avait au wagonnet un poste plus dangereux, nous avions décidé de nous relayer de façon à ce qu'on donne à chacun plus de chances d'en sortir vivant.
Hermann Trott, qui était accompagné de chiens, tout est réglementé au camp souche du Struthof. Vous parlez de trois catégories de chiens, tout étant mieux nourris que les hommes.
Oui, absolument. Et ça, ça a été une, non pas forcément une découverte de ma part, mais pas une surprise. Lorsqu'on analyse ce qui est commandé pour les chiens et qu'on fait la, on fait tout simplement une division donc en nombre de calories jour qui vont aux chiens et en qualité de nourriture, on se rend compte que les chiens sont mieux nourris, qui sont des chiens SS, hein, donc dressés avec un numéro SS d'ailleurs, ils sont immatriculés à la SS ils sont dressés effectivement pour cela.
Cette cave aux pommes de terre demeure à certains égards une énigme d'ailleurs.
C'est un mystère. Bon, c'est un mystère encore aujourd'hui. On se pose la question. Elle est aujourd'hui enfin visible par le public. Bon, parce que longtemps elle était au niveau du sol et en dessous du sol, donc on ne la voyait pas. Aujourd'hui, on l'a remis en valeur puisqu'on y a installé un musée le centre européen est par-dessus.
Le centre européen du résistant déporté.
Et donc par-dessus. Donc le public peut voir cette cave à pommes de terre et se poser également les questions de son utilité. On ne sait pas. Ça s'est appelé cave à pommes de terre. Il y en a aussi une à Buchenwald. Et la même question se pose pour Buchenwald, à quoi servaient ces caves ? De pommes de terre, sûrement pas, parce que sinon les détenus auraient bien mangé. Abri antiaérien, probablement pas non plus, parce qu'on est au niveau du sol. Lieu de torture et de travail inutile. Donc,
mais l'immense réseau que vous décrivez très précisément, rive gauche et surtout rive droite du Rhin, qui va se développer surtout à partir de 1944 et qui est fait de commandos de travail, n'aboutit pas nécessairement à une grande productivité et n'obéit pas nécessairement à une parfaite rationalité dans l'économie de guerre totale qui est pourtant le but recherché.
Non, il faudrait revenir juste deux minutes ou une petite minute sur ces commandos, hein, parce qu'il y a deux types de commandos. Il y a les commandos au service de la SS, donc qui sont soit des commandos internes au camp, par exemple des commandos d'entretien où on affectait les hommes, les cuisines par exemple, ou bien l'administration, d'autres commandos qui étaient réservés aussi au SS, par exemple un commando qui servait de personnel. Des officiers SS ou à des jeunes filles qui étaient dans une école de transmission SS de femmes. Ça, c'est un type de commando extérieur ou intérieur. Et puis, il y a les autres commandos extérieurs qui sont réservés à l'industrie. l'industrie de guerre. Donc là, il y a le tournant de 1942, à partir du moment où l'Allemagne piétine du côté du front russe, et elle se rend compte que ça ne sera pas aussi rapide qu'elle ne le pensait. Donc il faut, à partir de ce moment-là, dans cette guerre qu'elle ne peut pas perdre, parce que là, s'il y a une guerre qu'elle ne peut pas perdre, c'est bien celle-là, parce que c'est la guerre raciale par excellence. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut plus d'hommes pour se battre, mais il faut aussi plus d'armement. Comment résoudre ce problème? Himmler a la solution. Lui, il a les hommes. Donc, on va rapprocher les hommes des usines et les faire produire à partir de ce moment-là.
Dans un immense mouvement brownien que vous décrivez, les hommes passant, ce sont des rouages, des morceaux d'un commando à l'autre, et puis d'un commando de Nigel Heller à d'autres camps. Il y a toujours un peu d'absurdité. Il y a quand même un commando un peu plus doux que les autres, c'est celui qui s'occupe de la production de plantes pour confectionner des sachets phytosanitaires à l'usage des soldats.
Oui, ça c'est très curieux, mais on n'est pas à une curiosité ou à un étonnement près lorsqu'on étudie un camp de concentration. On est là dans cette idée d'une agriculture biodynamique que voulait aussi Hitler, et que les Allemands développaient, et on avait besoin effectivement de jardiniers, tout simplement pour s'occuper de ce commando.
Si on rentre de nouveau vers le camp Souche un instant, Robert Stigmann, l'administration en est assurée par des commandants successifs, le plus important c'est Kramer.
Oui, Kramer est un personnage extrêmement intéressant à analyser.
Bon, parce qu'il réglemente tout, hein, le fonctionnement de l'orchestre,
il est fait pour
le respect des fleurs qu'il ne faut pas piétiner aux alentours du camp des Boisés.
Oui,
etc.
Oui, j'allais dire, il est fait pour. Bon, je vais pas faire la biographie de Kramer. Encore qu'on peut la résumer très brièvement. C'est un homme qui, en 1931, est au chômage et j'allais dire de manière très simple, il voit de la lumière, il rentre, il trouve un emploi. On lui donne un emploi dans l'administration du système, enfin dans l'administration du parti. Et à partir de 1933, il est versé dans les camps. Et il fait toute sa carrière à partir de ce moment-là dans les camps, montant progressivement en grade. Il a passé par quantité de camps avant d'arriver à Nazweiler en 1941 comme adjoint du commandant d'abord et ensuite comme commandant à partir d'octobre 1942. C'est le spécialiste, c'est l'homme qui, c'est son métier en fait. Et ce qui le résume parfaitement bien, il y a deux choses qui résument, ou trois choses qui résument parfaitement bien Kramer. C'est tout d'abord son amour des fleurs. Voilà, on a là un paradoxe. À la fin de sa carrière, il se sentait bien à Bergen-Belsen, dit sa femme, parce qu'il y avait des fleurs qu'il n'y avait pas à Birkenau. Donc là, c'est l'absurdité totale. La deuxième chose qui le résume également, c'est sa villa, qui est à 50 mètres du camp. Villa avec piscine.
Donc on imagine,
on imagine Kramer rentrant le soir et puis prenant son bain. Et la troisième chose, c'est son absence totale de remords quant aux gazages qui ont été effectués au camp.
Sous ces ordres des gardiens, que vous décrivez fort routiniers, des hommes d'habitude, assez âgés, et puis sous les ordres de ceux-ci, des capots qui, dans les premières années, appartiennent évidemment plutôt au droit commun qu'aux détenus politiques, encore que peu à peu, les choses évoluent en 1943 et surtout en 1944. Témoignage d'un militant communiste français.
Les SS, qui étaient les maîtres du camp, il y avait ici une Mannschaft qui devait représenter 200 personnes à peu près, avec à leur tête un chef de camp SS, mais ils déléguaient en quelque sorte leur pouvoir d'administration interne du camp aux détenus eux-mêmes. Et à cette époque-là, en 1943, l'administration du camp était confiée à des capots qui étaient tous des capots de droit commun.
Naturellement, à mesure qu'on pouvait remplacer des droits communs par des camarades qui étaient des politiques, par exemple, le chef de bloc était remplacé par un camarade, par un politique, ça a commencé par les chefs de chambre. Et après, il y a eu des chefs de bloc, des politiques, qui étaient luxembourgeois, ou qui parlaient un peu l'allemand surtout, parce que ça facilitait. Bon, alors là, ça s'est amélioré.
Mais ça s'est fait comme ça, par le bas, ou bien aussi par le haut, avec la nomination d'un administrateur civil en chef, j'allais dire,
vieux militant communiste allemand détenu depuis 10 ans dans le système.
Ça s'est fait partout, dans tous les camps, mais la particularité de Natzweiler, c'est que ça s'est fait plus tard à Natzweiler qu'ailleurs, peut-être parce que sa date de création n'est que de 1941 par rapport à d'autres camps, mais il y a eu progressivement dans ce camp qui était surtout un camp de politique, c'est-à-dire de résistants, par une pression des détenus et par un renfort de solidarité interne. Bon, il y a une résistance interne au camp également.
Le système s'accélère, de plus en plus d'entrées, de rotations. À partir de mars 1944, il y a des gens qui sont dans le système de Natzweiler qui ne passent même pas par le camp souche, mais qui sont immatriculés. Et vient, le 1er septembre, l'ordre d'évacuation. Mais en même temps que l'ordre d'évacuation est donné, voilà que surviennent au camp souche du Struthof, par camion, 107 membres du réseau Alliance et 37 maquisards qui viennent d'être capturés. Alors là, il faut faire très vite. On va les mener directement au crématoire qui va être porté à incandescence le 1er et le 2 septembre 1944. Max Neuwehr, militant communiste, est détenu, surprenant d'ailleurs les SS en pleine action.
Moi, je me trouve avec certains camarades dans la dernière cabane qui est près du crématoire. Et c'est dans la nuit qu'ont été massacrés les membres du réseau Alliance. Et dans la nuit, on a pratiquement été les témoins de leur descente de camion. Et on entendait donc les cris, les hurlements des SS. Et ce jour-là, cette nuit-là, ça a été vraiment terrible. Et tout ce qu'on a en soi est ce vide. C'est-à-dire que on attend que la main de Dieu vous prenne et vous mette ailleurs.
Après le massacre des résistants du réseau Alliance, la cheminée a pris feu. Le four crématoire pouvait incinérer 15 corps par jour. Ma dernière image du camp, c'est la cheminée en flammes.
La marche de l'histoire sur France Inter.
Avec Robert Stigman, qui a consacré une vie de travaux au camp de Natzweiler-Struthof, le camp le plus occidental du Reich, en Alsace, annexé. Il faut être très précis, parce que le négationnisme rôde. Le four est porté à incandescence. Qu'est-ce que c'est que ce four? Combien y a-t-il de corps qui peuvent y être mis simultanément dans cette nuit tragique du 1er et du 2 septembre 1944, par exemple? Prend-il feu? C'est quand même du bon matériel, tout ça c'est codifié depuis longtemps. On sait comment se comporter avec les fours.
C'est du bon matériel qui, là aussi, bon, il faut rentrer dans la logique du nazisme. Bon, il y a deux entreprises qui se partagent le marché du four concentrationnaire, si j'ose dire.
Ce qui est bien dans votre livre, Nuée Bleue puis Seuil, c'est que vous donnez les noms d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Bon, il y a l'entreprise Topf, je peux les répéter, Topf und Söhne, et l'entreprise Cori, qui n'ont pas les mêmes méthodes de combustion. Il y en a un qui est plus gourmand en combustible que l'autre. Le Topf est plus gourmand que le Cori, donc on choisira le four Cori. Il n'est installé sur place qu'à partir d'octobre 1943.
En contrebas du camp.
Et il y a une très belle phrase de Boris Pahor, d'ailleurs, là-dessus. Bon,
écrivain slovène détenu au Struthof.
Oui, qui actuellement a 103 ans et continue d'ailleurs son travail d'histoire et de mémoire sur ce camp. Pahor disait que lorsqu'on arrive dans ce camp, on a une vision de l'enfer. On arrive par le haut et gradin après gradin, on descend vers le point le plus bas, c'est-à-dire le four crématoire. C'est une image qui résume parfaitement le camp.
Le four crématoire, il est visité début 1945. On n'est pas très sûr de la date de l'enregistrement que je vais vous soumettre, par un journaliste qui s'appelle Claude Blanchard. Vous racontez, vous, la visite d'un délégué du ministère des Déportés en février 1945 au Struthof, quelques mois après sa libération. Le camp, il est maintenant sous commandement FFI, puis de l'armée régulière. Il faut dire d'ailleurs une chose assez étonnante, ça c'est un moment qui mériterait un roman ou une pièce. Fin septembre, alors que les derniers détenus étaient évacués, sont arrivés pendant 2 ou 3 jours les l'état-major et 3000 personnes de la milice.
Oui, de la milice de Darnand, oui, qui était en partance vers Sigmaringen, vers l'autre côté du Rhin, et qui se sont arrêtés donc avec hommes, femmes et enfants.
Et drapeaux.
Et drapeaux, et tout le produit de leur rapine également, qui était contenu dans des cars, se sont installés et ont été servis, on ne peut pas dire autre chose, par un petit groupe de détenus qui restaient encore sur place et qui, justement, y restaient jusqu'au bout.
Pendant que les Américains, prévenus de la présence de la milice, commençaient à bombarder. Claude Blanchard, disons que c'est en février 45 ou un peu plus tard qu'a lieu ce reportage, a en mémoire quand même tous ces événements. Il est en contrebas de la pente et il décrit le four.
Et nous voici maintenant dans une large pièce froide, où règne une odeur âcre et où la neige s'engouffre par une petite fenêtre dont le verre est brisé. En face de moi, le four crématoire de forme cylindrique et dont j'aperçois l'intérieur. Imaginez maintenant une pelle de boulanger large comme un grand car. C'est sur cette pelle que les chauffeurs déposaient les cadavres. Cette pelle de boulanger s'engage dans la gueule du four crématoire et d'un mouvement sec, on pouvait la retirer en laissant le mort en proie aux flammes. À ma gauche, des urnes où l'on devait recueillir les cendres. N'imaginez surtout pas que c'était là une délicatesse allemande, non. C'était un commerce. Ces messieurs écrivaient à la famille du mort en leur disant ceci. Votre mari ou bien votre père, votre frère est mort. Contre envoi de 80 marques, nous vous enverrons ces cendres.
Des urnes, vraiment ?
Des urnes, oui, des urnes.
Et du commerce d'urnes, vraiment ?
Et du commerce d'urnes, avec deux catégories d'urnes, deux qualités, même d'urnes, des urnes qui étaient en terre cuite ou d'autres qui étaient en métal. Le prix était différent, mais ça ne concernait que les détenus allemands. Les autres détenus, les familles n'étaient pas averties, les cendres étaient dispersées, non pas dans le camp, mais étaient jetées sur un endroit bien précis, parce qu'elles resservaient, en fait, ces cendres. Elles servaient tout simplement d'engrais pour les jardins du commandant.
Ah, le commandant Kramer avait le soin des fleurs.
Là aussi, rien ne se perd, de la même manière que la chaleur du four ne se perdait pas non plus, puisqu'au-dessus du four, ce qui n'est pas décrit dans le documentaire, il y a un accumulateur, et à côté de cet accumulateur, dans une pièce attenante, la salle de douche, ce qui veut donc dire que quand la douche est chaude, le four vient d'être utilisé.
C'est un parfait résumé, vous y viendrez tout à l'heure, du système nazi mis au point depuis tant d'années qu'on trouve au Strotov. À proximité du crématoire, en contrebas du camp, il y a des salles d'expérimentation dédiées à des professeurs de haute autorité qui sont installés en principe à l'université nazifiée de Strasbourg, mais ont des liens avec le camp souche du Strotov. Trois noms.
Trois noms, oui, qui émergent dans ce corps médical qui est loin d'être anti-nazi en Allemagne, on le sait. Hein, ça fait partie de la corporation professionnelle qui probablement a été, dans l'état actuel des recherches, la plus proche des nazis.
Vous parlez des médecins.
Je parle des médecins, oui. Et donc, il y a là, effectivement, trois professeurs qui sont des professeurs éminents. Le professeur Hirt, qui est un anatomiste, et deux autres qui... Le professeur Bickenbach et le professeur Hagen également.
Alors Bickenbach est spécialiste des gaz.
Des gaz, oui, et Bickenbach et Hagen a fait des recherches sur le typhus et il a participé d'ailleurs à l'élaboration avant la guerre, donc grâce à différentes bourses qu'il a obtenues et qu'il a travaillé par exemple à l'Institut Rockefeller à New York également ou à l'Institut Pasteur à Paris.
Et là il peut avoir un matériel humain pour ces expérimentations sur les typhus.
Il a du matériel humain et les trois se différencient très bien. Bon, il y a là Bickenbach qui utilise tout simplement les détenus dans une chambre à gaz qui a été construite pour cela en avril 1943.
Dans l'ancienne salle de bal.
Dans l'ancienne salle de bal, oui, voilà. C'est une petite chambre à gaz, non pas une chambre à gaz à destination d'une extermination, mais d'expérimentation médicale.
Hagen lui fait venir des tziganes d'Auschwitz.
Oui, et pour faire
quant au professeur Hirt, alors lui, il a une grande ambition. Voici une lettre qu'il fait passer à Himmler dès février 1942.
La première série d'expériences a été conduite par le professeur Hirt de l'université de Strasbourg, où il avait la direction de service d'anatomie.
Hirt était un éminent savant. Et vous savez, quand il a proposé à Himmler sa recherche, je vais vous donner, c'est intéressant, un extrait de la lettre qu'il a écrite à Himmler. « Il existe d'importantes collections de crânes de presque toutes les races et peuples. Il n'y a que des Juifs dont la science dispose de si peu de crânes, rendant impossible d'en tirer des résultats fiables. La guerre à l'Est nous donne à présent l'occasion de remédier à cette pénurie. Nous avons la possibilité d'acquérir un document scientifique, tangible, en nous procurant les crânes des commissaires judéo-bolcheviques qui incarnent la sous-humanité la plus répugnante, mais caractéristique. La Wehrmacht devrait avoir l'ordre de remettre à la police militaire les commissaires judéo-bolcheviques capturés, de faire des photos et des mesures anthropologiques, puis de les mettre à mort, séparer la tête du corps, sans abîmer la tête, la mettre dans un récipient contenant un liquide de conservation et l'adresser à son institut de la Reichsuniversität Strasbourg. »
Et pour ce faire, il n'a pas hésité à faire venir un certain nombre de personnes des camps de l'Est, 80 et quelques, je crois 84, 85, en majorité des femmes, qui ont été internées ici au camp, qui ont été bien nourries, et puis ensuite qui ont été envoyées à la chambre à gaz.
Documentaire d'Alexandre Hérault, le vif du sujet. 84, 85, 86...
87. 87 sont arrivés au camp, n'étant pas immatriculés, mais on peut les retrouver. Ils ne figurent pas dans les registres d'arrivée, mais ils figurent dans les registres des morts. Là, il y a une petite faille dans le système nazi. Il suffisait de la trouver, cette faille. Et on voit effectivement que s'ils sont morts dans le camp, c'est qu'ils y étaient arrivés. Comment sont-ils morts? Il suffisait de remettre les choses ensemble. Alors, il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a 57 hommes et 30 femmes. Il y en a 86 qui ont été gazés, puisqu'une femme s'est rebellée avant d'entrer dans la chambre à gaz, donc on a dû la battre. Ils ont été gazés en 4 vagues et ensuite amenés directement sur l'Institut d'anatomie de la faculté nazie de Strasbourg. La faculté française est à Clermont-Ferrand à ce moment-là.
Oui, la faculté française a été évacuée dès septembre 1939. Voilà.
Et
le corps enseignant a été complètement reconstitué, oui, sans Alsaciens.
Sans Alsaciens, ce sont uniquement des nazis et des Allemands. À partir de... Et en 1944, ces corps sont encore là. Donc ça n'a servi à rien. Et là, on touche effectivement du doigt la logique totale et le nazisme.
Malheureux professeur Hirt, qui va devoir se réfugier dans une cabane en forêt noire, va se suicider en 1945. On pourra donner de meilleures nouvelles, je rassure nos auditeurs, des deux autres. En disant, ma vie n'a servi à rien.
Oui, oui, parce que il est au bout de sa logique, en fait. Et on est effectivement dans ce système qui est totalement, pour moi, ces 86 qui ont été gazés à Natzweiler sont pleinement représentatifs de tous les autres. De tous les autres et représentatif également de ce qu'a été véritablement le nazisme. C'est-à-dire non seulement de ne produire rien du tout, il n'y a rien de positif que l'on puisse trouver quand on fait le bilan du nazisme, mais en plus il y a également cette négation totale de l'homme, mais avec une volonté. Et la volonté de garder des preuves que cela a existé.
Et ceci dans un camp qui n'est pas stricto sensu, un camp d'extermination. Vos livres, La Nuée Bleue, Le Seuil, une exposition itinérante qui va aller dans les lieux des commandos toute cette année 2015, mais aussi dans des grandes villes et même à Paris, dont vous êtes le co-commissaire, exposition organisée par le Centre du déporté résistant du Struthof. Merci à vous, Robert Stigman. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparation Franck Olivard à la technique. Élise Christophe, Mathieu Vidard dans un instant.
Avec des cailloux partout, Jean Lebrun dans le dossier, avec deux géologues avertis.
Merci.